Anne-Laure Danier, je rappelle que vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France et vous êtes responsable du service des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Avec vous, dans ces entretiens, nous essayons de comprendre ce que c'est que l'œcuménisme, ce que c'est que le rapprochement entre les églises chrétiennes et de voir comment les différences, qui sont indéniables, peuvent devenir des richesses au lieu d'être des obstacles ou des lieux de tension et de défiance. Alors vous avez invité les auditeurs, vous nous avez tous invités à découvrir ce qui se passe dans les autres églises. Est-ce que on pourrait pas dire, mais c'est une forme de... On papillonne si on fait ça. On fait son miel de ce qui nous arrange et puis après on se fait sa petite tambouille, quoi.
Vous abordez un sujet essentiel qui est la question de l'identité. Moi, j'ai découvert, en faisant toutes ces démarches, ces rencontres, que, au contraire, ça a approfondi ma propre identité, alors je vais la définir comme ça, de protestante réformée. Ce qui a changé par rapport aux années précédentes, c'est un véritable élargissement. C'est-à-dire, je suis très à l'aise dans une divine liturgie orthodoxe comme à la messe catholique. Mais je peux aussi aller dans un culte évangélique, un culte luthérien et le mien. Ou alors un office copte. Voilà, c'est-à-dire que ce qui nous fonde, cette louange à Dieu, c'est l'être même du chrétien. Notre vie, elle est fondée non pas sur des choses à faire, puisque nous vivons de la grâce. Et ça, c'est quand même un acquis entre nous. C'est-à-dire, on se le dit et on se le redit. Et on dit la même chose. Sous des formes différentes, mais on dit la même chose. Cette grâce, c'est-à-dire cet amour inconditionnel de Dieu pour chacun et donc pour moi, comment je le vis ? Eh bien, je dis, ça veut dire je suis plus menacée. Je peux vivre ma foi là où moi je me sens le mieux. Et aujourd'hui, je le dis, oui, j'aime mon Église parce que c'est là où moi je me retrouve le mieux, à la fois dans son langage, dans ses expressions de foi, mais aussi dans ses contenus. Mais c'est pas pour ça que je vais dire « mais ce que dit l'autre ne fonctionne pas ». Au contraire, il y a une espèce de porosité qui s'installe, mais c'est pas du tout et n'importe quoi. Le mouvement œcuménique sur cette question d'identité a avancé par étapes. On a d'abord défini une identité existentielle. Comment je suis saisie par Christ ? Et là, c'est en dehors de toute confession, en dehors de toute dénomination, toute église, c'est mon rapport à Dieu. Et c'est là où j'ai essayé d'expliquer dans une émission précédente, ces rencontres où on apprend à se découvrir frères et sœurs, on dit aussi de quelle église on est, parce qu'on n'est pas des extraterrestres, il faut bien l'incarner quelque part.
On est enraciné dans une tradition, oui. Quand même, dans une histoire.
Alors ça, c'est la deuxième identité. La deuxième identité, c'est une identité confessionnelle, c'est-à-dire... Oui, je me définis comme protestante, parce que c'est dans ce protestantisme-là que moi je m'y retrouve, que je chemine dans ma foi. Et la troisième identité, c'est une identité ecclésiale, c'est-à-dire dans une église locale. Je vais être dans l'église réformée, et localement à tel endroit, engagée à tel endroit. Donc ça fait le système de l'entonnoir. Et cette identité-là, c'est pas la même qu'une église évangélique, orthodoxe, catholique, anglicane, etc. Parce qu'il y a des différences, comme vous l'avez souligné. Troisième étape, ces identités-là, il s'agit de ne pas tout niveler. On n'est pas tous pareils, et surtout ne pas devenir tous pareils. Qu'est-ce que j'en fais de cette identité ? Eh bien, c'est d'arriver à une identité suffisamment ouverte, donc ouverte aux autres, pour qu'elle devienne partagée. Alors, on n'y est pas encore.
Partager, c'est-à-dire ?
Eh bien, c'est-à-dire, je peux élargir mon identité sans me renier, en restant dans le cadre de mon Église, mais en prenant des éléments qui ne sont pas de ma tradition.
Vous avez un exemple précis à nous donner ?
Il me semble que sur les expressions de foi, on peut largement s'ouvrir, parce que c'est sans doute le plus facile. C'est ce qui déstabilise le plus au début, mais c'est sans doute le plus facile.
Ce dont vous parliez,
les
c'est-à-dire...
Les chants, par exemple.
Ouais.
Les chants. Alors, la chance que j'ai eue, c'est de circuler dans le monde, dans des églises réformées, donc les mêmes églises que la mienne. Mais ces églises-là, en Afrique ou à Madagascar, ou même au Nicaragua, elles n'ont pas un grand rapport avec la mienne en France. Hein. Alors là aussi, j'ai été déstabilisée. C'est-à-dire, on voit que ce n'est pas d'abord des expressions de foi qui sont à mettre en avant. Ça, au contraire, il s'agit de s'enrichir les uns les autres. Il s'agit aussi de... En Afrique, on danse beaucoup dans un culte, par exemple. Et ça, c'est formidable. C'est pas dans la tradition française, ça, loin de là. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? D'abord, c'est culturel pour eux. Mm-hmm. Et puis, la louange avec le corps a aussi sa place. Nous, on gomme ça. Et bien, c'est bien aussi qu'on puisse rentrer dans cette démarche.
Alors, Anne-Laure Danet, si vous vous sentez confortée, confirmée dans votre foi protestante et dans votre appartenance à l'Église protestante, qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui seraient troublées par un culte différent de celui auquel elle est habituée ? Quelqu'un qui serait troublée au point qu'elle se demanderait si elle ne va pas rejoindre cette Église ? Est-ce que cette histoire des conversions... D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut parler de conversion entre églises. Un protestant qui deviendrait catholique, un catholique qui deviendrait orthodoxe, enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Ça, ça existe ?
Alors, ça existe, on parlerait plutôt de passage d'une église à l'autre, parce qu'on se convertit au Dieu de Jésus-Christ, et pas à une église. Mmh. Donc, mais du passage d'une église à l'autre, alors oui, ça c'est très fréquent. Mais encore une fois, ça, moi, je veux le relativiser dans le sens où c'est d'abord notre appartenance à Jésus-Christ qui est importante. Et après, se trouver un lieu où on se sent bien. Moi, je me sens bien dans mon église réformée, très bien, pourquoi est-ce que je changerais ? Même en découvrant d'autres églises. Mais quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, parce que c'est pour plein de raisons, mais c'est bien qu'il aille voir ailleurs, et qu'il trouve un lieu où il peut vraiment vivre sa foi avec ce qu'il est. Il y a des gens qui ont besoin d'une expression beaucoup plus démonstrative, beaucoup plus visible, d'autres beaucoup plus discrètes. Et bien évidemment, ils ne vont pas trouver la même église, là. Hein. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Là, il faut que tout le monde trouve un lieu, et c'est ça qui est essentiel, où il puisse vivre sa foi avec des frères et des sœurs.
Reste la question du baptême.
Alors ça, ça fait partie des différences, effectivement, mais ceci dit, là, il faut aussi le relativiser. Vous savez qu'il y a eu un accord entre les églises luthériennes et réformées et l'église catholique, donc on ne parle plus de baptême œcuménique, mais on parle de baptême, parce qu'il y a eu une reconnaissance entre nos églises sur la question du baptême. Ce qui fait que quand il y a une demande de baptême, elle se fait maintenant plus avec un pasteur et un prêtre. C'est l'un ou l'autre, mais c'est reconnu dans les deux églises. Là où c'est pas encore reconnu, mais ça avance, c'est avec les églises évangéliques qui pratiquent pas le baptême des enfants et qui pratiquent que le baptême de gens conscients de ce qu'ils font quand ils demandent le baptême. Là, il y a une approche, une compréhension du baptême qui est pas la même, mais avec une très grosse ouverture qu'il y a eu récemment. Il y a eu une rencontre et tout un travail, alors depuis plusieurs années, entre l'Église catholique, donc le Vatican au niveau mondial, la Fédération luthérienne mondiale et le Conseil ménonite mondial. Les ménonites sont une église évangélique qui ne pratique pas le baptême de bébé. Hein. Et à force de travailler ensemble, ça a mis des années, hein, ils ont dit nous pouvons admettre la possibilité, c'est pas encore signé mais c'est en voie d'eux, admettre la possibilité qu'une personne, par exemple luthérienne ou catholique, qui demande à être membre d'une église ménonite, ne soit pas baptisée par nous, même si elle a été baptisée enfant, mais devienne membre uniquement sur profession de foi. C'est une avancée considérable. Parce que ça veut dire la prise en compte d'une autre compréhension du baptême, et puis du côté catholique et luthérien, comprendre pourquoi eux, ils ne parleraient jamais de rebaptême. Et de demander cette profession de foi, ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a eu une compréhension mutuelle et une voie de rapprochement entre ces églises. Ça, c'est une avancée considérable. Alors après, ça va prendre du temps, parce qu'on est au niveau mondial, le temps que ça arrive dans les églises locales. Et puis quand même, il n'y a pas des passages d'une église à l'autre tous les jours, il ne faut pas exagérer non plus.
Revenons à ce que vous disiez, trouver le lieu où on se sent le mieux. Si moi, catholique, je me dis, ben, aujourd'hui j'ai envie d'aller au culte protestant parce que je sens que j'ai besoin de ça. Mais dimanche prochain, j'irai à la messe. C'est comme ça que vous voyez les choses ou je vais un peu loin ?
Non, parce que pour, comment dire ça ? Pour s'engager dans une église, encore faut-il la connaître. Et ça se fait pas en une fois, ça. Et c'est vivre un peu avec. Si je me sens pas bien dans mon église, bien sûr que c'est légitime d'aller voir une autre, mais prendre le temps d'être avec, de vivre avec. Parce que la vie d'une église se réduit pas à simplement l'office. Et il y a des tas de choses autour. Il y a aussi un cadre. Et ces cadres sont pas les mêmes. Un cadre à la fois théologique, un cadre ecclésial, une manière de vivre.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas se sentir bien dans son église ?
Ben, parfois, on peut être complètement en désaccord avec ce qui est dit, avec la façon dont c'est vécu, avec une personnalité qui ne convient pas à ses expressions de foi, justement. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement réservé et discret, il ne va peut-être pas être très, très à l'aise dans une église qui est très démonstrative pendant son culte. Ça, on peut le comprendre. Donc là, ce n'est pas des considérations ni théologiques ni ecclésiales, c'est tout simplement humaine. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Parce que, encore une fois, l'essentiel, c'est que le corps de Christ, il est un. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Mais par contre, il y a des mains, il y a des pieds, il y a des bras, il y a ces différences-là, ce sont nos églises. Et c'est important aussi de manifester qu'on n'est pas tous pareils. Du coup, c'est légitime que chacun aussi se retrouve là où il se sent bien. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus catholique de père en fils ou protestant de père en fils. C'est fini ça, cette transmission-là, elle n'existe plus ou très peu, pour une raison très simple, c'est qu'on est dans une société ultra sécularisée. Ça veut dire que ce témoignage de foi, il se passe autrement. Et du coup, ça veut dire des ouvertures beaucoup plus grandes.
Merci beaucoup.